Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
L'amour, ça n'a jamais été facile. C'est toujours casse-gueule. C'est toujours périlleux. Il y a toujours des quiproquos. J'espère que l'Internet ne rajoute pas trop de tristesse à ça. Il paraît que ça facilite plutôt les choses. J'espère que vous trouvez cet espace, en fait. Et c'est une chasse au trésor. Ce qui me terrifie, c'est que j'ai parfois l'impression que on se traite comme des marchandises. La magie de l'amour, du regard qui s'attarde, de la main qui se frôle, mais j'espère que vous le vivez. Et peut-être parfois ça marche à travers une appli, et si ça facilite les choses, très bien, mais regardez-vous avec douceur en fait. Ne jugez pas les autres. Il n'y a pas de petites étoiles à mettre, quoi. Il y a des petites étoiles à vivre et à propager et à ressentir.
La liberté commence lorsque vous aspirez à quelque chose de plus grand que vous. Flore Vasseur, avec ses mots, ses films, ses écrits et ses paroles, défend la force et les idées d'une génération prête à en découdre, notre génération. Flore a connu l'éclatement de la bulle Internet et a vécu le 11 septembre à New York. Ces deux événements l'alertent, la bouleversent et lui donnent la rage. La rage de dénoncer ce qui cloche et de réveiller un monde endormi par les écrans. Alors elle travaille sur la fin du monde tel que nous le connaissons, sur celui à venir et sur celles et ceux qui pourraient faire de cette transition une réalité. Elle remet en cause le système économique et technologique dans lequel on vit et elle questionne les choses de la vie, de leur plus simple banalité à leur entière complexité. On parle dans cet épisode des sentiments amoureux à l'heure de la mondialisation, de transition numérique de nos sociétés, d'Internet, de Big Brother et des réseaux sociaux, de démocratie et de ce qui cloche dans le modèle de réussite que l'on nous vend à l'école. Cet épisode est précieux. Flore y dénonce un monde d'avant gouverné par la peur et dessine un monde nouveau guidé par la joie, celui de demain. Celui qu'il ne tient qu'à nous de construire. Les solutions sont partout et le nouvel œil que nous propose d'emprunter Flore aujourd'hui est une de ces solutions. Alors je compte sur vous pour partager, relayer cet épisode autour de vous, pour aider à insuffler cette vague de changement dans nos petites têtes. Bonjour Flore.
Bonjour.
J'adore ton métier, ton parcours m'inspire énormément. J'aime tes
Merci.
Combats, tu es de celles et ceux qui participent activement à la construction du monde de demain. Donc Flore, merci d'être ici ce matin et j'ai 1000 questions pour toi.
Super.
Donc par différents leviers, l'écriture et le cinéma notamment, tu dénonces l'irrationalité de nos modèles économiques qui sont basés sur la croissance infinie. Tu écris des livres et des documentaires pour tenter de comprendre et d'alerter sur l'effondrement de notre système et sur celles et ceux qui proposent un autre monde, sur tout ça. Alors on va parler de ces irrationalités et de cet autre monde. Mais avant ça, Flore, on va revenir sur ton enfance et sur ton parcours, si tu le veux bien. Elle ressemblait à quoi, alors, ton enfance, Flore ?
Eh ben, avec le recul, je me dis que j'ai quand même eu une chance absolue de grandir à Annecy. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup voyagé, donc je peux le dire, c'est vraiment l'une des plus belles villes au monde, un des plus beaux endroits au monde. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans cet endroit, cette terre. Enfin, je me rendais pas compte. Je croyais que tout le monde vivait comme ça. Comme toi, je crois, ça a été une hallucination un peu, enfin une très grande déconvenue plutôt quand j'ai commencé à aller dans des villes, parce qu'à l'époque c'était vraiment petit. J'étais une enfant assez solitaire. J'avais du mal à me lier aux autres, et notamment aux filles, et je m'ennuyais beaucoup. Et en fait, je m'en suis sortie entre guillemets en faisant beaucoup de sport. Et j'étais pas très forte à l'école. Enfin, c'était besogneux pour moi. qui m'entoure m'a sauvée, en fait.
Parce qu'il t'entoure, t'entends l'environnement, la montagne?
Ouais, la montagne, le lac, presque plus la montagne. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de surf des neiges. Et quand j'ai compris que la montagne, ça pouvait être autre chose que juste descendre à ski, ce qui m'ennuyait le plus au monde, mais qu'on pouvait jouer avec la pente et qu'on pouvait exprimer sa liberté, je faisais beaucoup de danse aussi. Et en fait, c'est devenu mon truc absolu. Et je crois même que ça m'a atteint enfin, ça m'a défini un rapport au monde, en fait. Parce qu'en fait, c'est une expérience de la solitude, la montagne, le surf, comme je le pratiquais moi. Ça me permettait de passer mes week-ends avec un Walkman sur les oreilles, parce qu'à l'époque, c'était cassette, hein, et de parler à personne. Et j'étais en même temps à l'extérieur, et je m'éclatais, et je dansais, en fait. Je dansais sur la neige avec Janet Jackson, pardon.
Tu dis que tu appartiens à une génération élevée par 3 slogans. Quels sont ces fameux slogans?
Alors, enjoy, parce que tu le vaux bien, L'Oréal. C'est à peu près pareil. Et just do it. Cette génération des années 70, en fait, le marketing et la pub sont à leur apogée, quoi. Je pense que cette décennie 70, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est le sacre de la pub et son génie, quelque part. Parce que c'est vrai que moi, je raconte des histoires toute la journée. C'est des nouveaux mythes que les gens construisent. Enfin, encore une fois, ces 3 slogans, ta génération les connaît.
Oui.
Il y a pas beaucoup de choses qui ont tenu des années 70, tu vois. Enfin, je veux dire, et ça continue à vous donner une direction, tu vois. C'est complètement dingue la façon dont ça a insufflé la société, ça a insufflé la politique, et ça s'est accompagné de lois sur la finance notamment qui incarnaient ça. C'est-à-dire, just do it. Bon, ça tient qu'à toi. Vas-y, fonce, mon gars, t'as tous les droits. Enjoy. Vas-y, profite. La vie, elle est faite pour toi, donc sacre de l'individualiste. Et parce que tu le vaux bien, parce que tu sais quoi qu'il t'arrive, impunité totale. Ben voilà. En fait, les 3 piliers de la société sont posés. Toutes les règles politiques derrière ne font qu'incarner et rendre possible ça.
On va reparler de ces petits problèmes sociétaux après. Comment tu étais quand tu avais 20 ans? Est-ce que tu avais déjà quitté tes montagnes pour rejoindre la ville ou pas encore?
Ouais, ben mes 20 ans, j'étais à l'IEP de Grenoble.
Ouais.
J'étais rentrée après mon bac et j'avais négocié un statut de sportif de haut niveau parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de surf et j'étais dans ce qui s'appelle le circuit des compètes, des participer à des Coupes du Monde. Donc j'avais un petit appart à Grenoble et en fait, j'étais jamais en cours. Tout le temps décalé, donc je n'ai pas du tout profité de la vie étudiante. C'était en fait ça m'allait bien parce que j'avais un côté totalement, je vais pas dire autiste parce qu'après je vais avoir plein d'appels en disant c'est pas ça l'autisme, etc. Mais ok, mais j'avais vraiment du mal à être dans des groupes, quoi. Et puis j'étais pas bien dans mon corps, et puis j'étais pas bien dans ma féminité, et puis j'étais pas bien avec les garçons. Enfin, il y avait que le surf qui allait, quoi. Et puis les études m'intéressaient quand même, sciences ouais. politiques, c'était vraiment hyper intéressant. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup profité parce que j'étais 2 jours par semaine en cours. Et même si l'administration était sympa, j'en ai gardé une haine absolument féroce pour les mois d'avril, parce qu'en fait, au mois d'avril, je devais réviser tout ce qui s'était dit pendant les TD, les cours, etc. sur toutes les matières. Je devais rattraper tout le programme en fait pour les partiels qui avaient lieu juste après. Et chaque année, j'ai failli me faire virer de cette école. Et j'ai eu 7/20 à mon grand oral. Enfin, je me suis complètement plantée. Mais j'ai traversé ces 3 années, quoi. Et c'était, en fait, avec le recul, je rigole, mais c'était pas très agréable, en fait. J'avais quand même toujours j'avais un peu la honte, quoi. Enfin. Et heureusement, j'avais choisi des études très, très intéressantes. Et j'encourage ceux qui s'interrogent sur le monde à garder ces études. Peut-être pas faire que ça, mais c'est vraiment là où on s'ouvre le cerveau. Tout est à votre disposition. Après, vous en faites. Moi, j'en ai pas fait ce que j'aurais dû. Vraiment, j'ai un vrai regret là-dessus. Mais j'ai fait autre chose et puis qui m'a aussi portée et puis je m'en suis bien sortie. Hein, mais j'ai bien surfé.
Pourquoi tu en as pas fait ce que tu aurais dû?
Je sens que j'ai des carences énormes. Le moment de solitude, honnêtement, à ce grand oral où j'ai vu le visage absolument dépité des profs. Et qui m'interrogeait sur des trucs et je ne savais pas de quoi il parlait, quoi. mais ce moment de solitude énorme, disant mais qu'est-ce que t'as fait quoi, qu'est-ce que t'as fait. Alors c'était le regard de l'autre, mais c'était pas seulement ça, c'est que c'est magique tout ce contenu quoi. Ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe, ça peut nous aider à mettre des mots sur toute une série de choses. Mais néanmoins, finalement, je fais que ça depuis quoi.
C'est ça, tu continues quand même d'apprendre.
Moi, ouais, je continue mes études en fait.
Et tes rêves à cet âge-là, quand tu avais 20 ans, tu étais à Grenoble, quels sont-ils ?
Voilà. Je sais pas si j'avais des rêves, j'étais vraiment bien paumée, je crois.
Tu voyais ton avenir dans la montagne, dans le sport de haut niveau ?
Alors, j'étais complètement paumée. Je vivais dans l'instant. Il y avait un truc qui était à peu près sûr, c'est que je démarrais et que j'avais envie de bouffer le monde.
J'adore cette expression.
Mais fallait un peu galvauder, mais c'était vraiment ça. J'avais beaucoup d'énergie en fait. Pour ça que le sport m'a calmée. Je sais pas si j'avais des rêves, mais mon frère était parti à Hong Kong et je me souviens que pendant mes études à 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans à Hong Kong. J'étais partie le rejoindre et j'avais moi-même fait un stage comme tu fais toi aujourd'hui au consulat et je m'étais régalée. J'étais tombée sur un maître de stage absolument dément, mais dément quoi, et qui était fou quoi, et qui était l'attaché culturel. Et c'était l'époque où Hong Kong appartenait encore à l'Angleterre et on parlait de rétrocession. J'ai fait comme ce que t'as fait. Je suis allée interviewer, j'ai fait mon mémoire là-dessus, je suis allée interviewer tous les pontes de l'époque du gouvernement hongkongais. Enfin, je me suis éclatée. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Mmh. Après, étonnamment, on le fait moins quand on devient vieux, tu vas voir. Mais enfin, ou pas.
On se met plus de barrières.
Ouais, on se met plus de barrières, tu vois, on se met plus d'interdits. Et là, je me suis dit que je voulais vivre à l'étranger. Alors là, pour le coup, Paris m'intéressait pas, Lyon m'intéressait pas, mais alors partir à l'autre bout du monde et dans ce genre de ville. Alors pourquoi elle m'a plu ? Ben ça allait à 3000 à l'heure, c'était la Chine et puis c'était l'ultra modernité et puis ça grouillait de monde et puis c'était la fête. Là, j'ai découvert la fête. Et après je me suis dit je veux vivre à Hong Kong, je veux partir en Chine, je m'étais passionnée pour je me passionne assez vite on va dire, mais là voilà pour cette histoire de rétrocession. Et j'ai dit à mon père, je finis mon diplôme, j'étais en deuxième année, il me restait une troisième année, je finis mon diplôme et je pars en Chine. Et mon père, c'est la seule fois de ma vie qu'il m'a interdit un truc, quoi.
C'est vrai? Pourquoi?
Et il m'a dit, ton diplôme de l'IEP, ça suffira pas, tu fais une autre chose et après tu pars.
Donc tu vas faire HEC.
Et donc, voilà, à l'époque, j'avais un super petit copain qui m'avait dit qu'il y avait un concours d'admission parallèle entre les IEP et les écoles de commerce. Et c'est un concours national. Et en fait, selon ton classement, tu choisis là où tu vas. Et au début, je lui ai dit, mais ça va pas, je vais pas devenir vendeuse d'ananas. Je ferai jamais un truc pareil. Puis, mon père m'ayant foutu la pression, je me suis dit, je vais pas retourner à la fac. Enfin bon, en fait, j'ai un côté cheval gagnant, quoi. Donc, je me suis dit, bah tiens. Et en fait, j'ai passé le concours en voie parallèle. Comme j'avais rien foutu pendant 3 ans, mon cerveau était totalement frais. J'adore l'économie. Donc il y avait une spécialisation où on pouvait passer le truc en éco. Et je suis rentrée, la porte s'est refermée derrière moi, mais voilà, je suis rentrée à HEC, ce qui a fait hurler de rire absolument tout le monde, vu ce que je venais de faire dans ma scolarité, quoi. Et moi-même, quand je suis arrivée, syndrome de l'imposteur, on arrive tout seul devant 400 élèves que je estimais les plus intelligents du monde. J'ai mis 4 jours à leur parler, à oser dire mon nom et ça.
Ces études à HEC, elles t'amènent à New York, où tu découvres la frénésie autrement qu'à Hong Kong, mais toujours la frénésie quand même. Et à 24 ans, tu montes ta boîte de marketing, donc toujours à New York. Comment tu te sens à cette période ? Est-ce que tu es heureuse ?
La raison pour laquelle je pars à New York, c'est que quand même à HEC, je me fais recruter par une très grande entreprise, un grand groupe, projeté très très haut. Et je déteste en fait. Là, je manque d'air. Enfin vraiment, je suffoque d'ennui. Et puis je vois que tout le monde a la trouille au ventre, c'est que des vieux mecs. Pardon pour eux, mais c'est vrai. Et c'est pas ma place, quoi. Et je peux faire ce rôle-là. Je peux endosser ces habits-là. Je peux être cette personne-là. Mais sauf que j'ai 24 ans et qu'il est hors de question que je fasse ça. À l'époque, je rêve de faire beaucoup de danse, du hip-hop. Et je me dis, bah, tiens, je vais aller à New York. Toujours. Les villes sont hyper importantes pour moi. J'ai besoin de ces énergies, en fait. Et je m'en nourris et ça me porte. Ça me donne envie de faire plein de trucs. Certainement que ça m'excite, et que ça me suffit. Et en fait, c'était la fin des années 90. On n'avait pas encore le problème du réchauffement climatique. Enfin, les gens en parlaient, mais la pub avait tellement bien fait son boulot, et les politiques aussi, que grosso modo, on nous disait « enjoy, just do it », parce que tu le vois bien, on s'occupera du... T'inquiète pas, on va inventer une technologie qui va régler tout ça. Moi, j'avais fait HEC, j'ai pas réfléchi plus loin. Hein. J'étais complètement dans ce moment où, la fin des années 90, il y a une bulle énorme qui s'appelle la première bulle Internet, où tout le monde croit qu'il va écrire le nouveau monde. Parce qu'on se dit, cette technologie va tout ringardiser, et notamment les commerces. Il y a cette idée qu'on va écrire un nouveau monde dans lequel les relations seront plus fluides, dans lequel vous aurez tout... Enfin, toujours dans ce trip, enjoy, just do it, parce que tu le vois bien. En fait, il y a une technologie qui arrive et qui va parachever le rêve d'avoir tout tout de suite, quand tu veux, au meilleur prix. Et tous les gens de 20 ans diplômés à cette époque-là rêvent et quittent les jobs traditionnels, et d'ailleurs les boîtes ne savent plus comment recruter les gens, pour aller créer leur propre start-up. Et je me dis, bah j'ai 24 ans, j'ai fait HEC, c'est quand même pour une raison, si je me plante, je retournerai, je pars. Et je suis partie, mais la valise en carton, sur une compagnie aérienne qui n'existe plus, qui s'appelle Tower Air, où t'avais peur à chaque fois que tu prenais l'avion, sans visa, sans réseau, sans fric, sans rien. Et là, j'ai vécu une année de ouf, quoi. À défier la gravité, en fait. Ça, c'est très, très important, tu vois. Défier la gravité. T'es une femme, t'es toute seule, tu connais personne, et ben, je vous emmerde et je vais le faire, quoi. Puis assez vite, malheureusement, la bulle a éclaté. Enfin, voilà, c'était même cocasse à vivre. Hein. Tout le monde a fait faillite, en fait. Tout le monde est devenu barman, les professeurs de yoga, les promeneurs pour chiens. Donc ça, c'est la version positive de l'histoire. Mais honnêtement, c'est une crise qui a tapé les CSP+. Donc je vais plus, là, j'ai plus tendance à rigoler parce que personne n'est mort. Hein. On n'est pas dans les subprimes. Là. Et il y a eu ça, puis après, il y a eu le 11 septembre.
Oui, oui, oui.
Surtout.
Donc là, tu as 28 ans, tu as une start-up, des clients et une vie new-yorkaise. Et puis vient le 11 septembre, donc, et son attentat qui bouscule ta vie, et la vie de beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs. Tu quittes New York, tu fermes ta start-up, tu quittes l'homme que tu devais épouser.
Malheureusement. Non,
tu veux nous en parler?
Non, mais c'est une blague entre nous, parce que pour le coup, on est restés très, très amis, et il est tellement gentil et tellement adorable qu'il me laisse dire quelque chose comme ça, mais... C'est une side note, mais l'amour se transforme, quoi. Mmh. Vous inquiétez pas.
Mais on ressent dans ton livre qu'il y a un petit peu de regret quand tu parles de cette personne-là. Tu l'as laissé en Amérique ou
Ouais, je l'ai laissé en Amérique et il s'en est très bien sorti sans moi. Mais vous savez, les gens qui vous ont aidé, qui vous ont aimé, bah vous les oubliez jamais. Et puis après, il y a plein de choses qui font que c'est pas possible. Et je pense que c'était le meilleur chemin pour lui comme pour moi. Mais il y a du regret à pas être capable d'aller plus loin, en fait. Et en même temps, c'est insurmontable. Enfin, et de toute façon, l'histoire ne se réécrit pas. Mais il y a un certain nombre de personnes qu'on quitte et on n'est jamais sûr de faire le bon choix. Et une bonne façon de s'apaiser avec ça, en tout cas, c'est celle que moi j'ai trouvée, c'est que dans la plupart des cas, on a transformé la relation. Le lien est toujours là. Mais dans beaucoup de cas, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais qui est appelé, quoi. Donc, il y a un côté triste parce que tu t'es dit, bah ouais, mais t'es pas capable de te laisser aller à une relation d'intimité, dans la vraie intimité, mais quand les gens sont à distance, c'est plus simple. Bah ouais, peut-être, c'est ce que je suis capable de faire, mais voilà. Donc, il y a toujours un peu de regret parce qu'il y a beaucoup de tendresse, en fait. Ouais. Et que c'est pas si fréquent, la tendresse, vraiment. Pas que physique, mais l'absolue reconnaissance de quelqu'un dans son individualité. Ça, c'est pas souvent, quoi. Voilà.
Donc, tu disparais des photos, des vies comme il faut, des vies sans questions, des vies droit devant, et tu dis, moi qui ne m'étais jamais posé de questions, je me laisse envahir. De quoi est-ce que tu te laisses envahir?
Du doute, de la peur, du chagrin, et des questions. Parce que là, bon voilà, Annecy, le surf, IEP, New York, Hong Kong, machin, c'était un bon surf, quoi. Je me suis bien marrée, j'ai filé, j'ai fait exactement ce qu'on m'avait dit, j'ai travaillé quand il fallait, j'ai profité quand il fallait, j'ai consommé comme il fallait, voilà, je suis tombée dans tous les trucs, quoi.
et sans questionner, sans disant bah ouais, c'est, ils ont, elle a raison la pub, enjoy, just do it, parce que je le vaux bien, c'est bien, ça me va bien. Ah bah là, ça m'a plu du tout, ça m'a explosé à la figure, quoi.
Et tu trouves refuge dans l'écriture. Quelques années après, en 2006, tu sors ton premier livre, Une fille dans la ville, et tu écris ça. À la sortie d'HEC, je fais comme tout le monde, j'emprunte le tapis rouge de la très grande entreprise. Après une brève extase de l'ego, j'étouffe tout en haut du CAC 40, dans cette holding de luxe gouvernée par la peur. C'est donc cela, la vie active, la danse du ventre des banquiers d'affaires, le capitalisme de papa, les portes fermées, la moquette couleur crème, les tableaux de maître grand siècle. J'interroge mon boss, intelligence de feu dans une tête d'ange, au bout d'un grand corps tout maigre, abonné au prix d'excellence depuis la maternelle, bombardé directeur de la stratégie à 30 ans, il va au casse-pipe, comme d'autres avant lui. En quoi avoir été dans l'excellence depuis tout petit et avoir un poste prestigieux dans des hautes tours, c'est aller au casse-pipe?
Parce que je pense que ça vous préserve de la vie. Vous êtes enfermé dans votre intelligence, dans votre statut, dans votre argent, dans votre confort, dans vos réflexes. Vous êtes un bon petit soldat, mais vous n'êtes pas vous-même. Enfin, je pense que... Enfin, il y a peut-être des gens qui sont nés pour ça, hein, mais je pense qu'on n'est pas nés pour ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et si j'en vois le niveau de burn-out autour de moi, des gens de ma promo d'HEC ou des gens qui ont bifurqué... Alors, burn-out, c'est pas gravissime, c'est l'alerte qu'il faut décamper, quoi. Et là, encore une fois, il y a une accélération de l'histoire avec cette pandémie, mais cette quête de sens, tout à coup, elle nous explose à la figure sociétalement. Et moi, je crois que je l'ai vue à 24 ans dans cette boîte, en fait, où j'ai eu la chance, effectivement, de voir ce que ça voulait dire si je continuais sur les rails et ce que je serais dans 10 ans, tu vois. Et en fait, ça me parlait pas du tout. Et il y a plein de gens qui trouveraient ça super. Mais alors moi, je sais que j'allais au bureau et que je rapetissais au fur et à mesure que j'approchais de la porte d'entrée. C'est quand même dingue.
Oui.
Faut quand même pas déconner, c'est pas la mine, quoi. Enfin, je dis ça parce qu'en plus, moi, j'ai un grand-père mineur. Donc,
tu te mets à écrire avec comme fil d'Ariane la question « Qui gouverne ?» Et tu dis « Écrire pour comprendre la fin d'un monde ». Comment tu décrirais ce monde qui prend fin ?
Ce qui nous explose à la figure aujourd'hui, c'est un monde qui est assis depuis 500 ans, au moins, sur l'idée que les êtres humains sont au-dessus des autres espèces, ont le droit d'accaparer les terres, d'accaparer les ressources, d'accaparer l'énergie, d'accaparer les femmes. C'est cette logique de prédation, en fait. Surtout, cette idée de suprématie et des êtres humains sur le reste des espèces et des blancs sur le reste du monde. Et ben voilà, je pense que ce monde-là est en train... Enfin, quelque part, j'espère qu'il est en train de... Enfin, voilà, je sais que c'est un passage dans lequel il y a de la casse. On a tous peur, on va tous perdre, etc. Ok, mais c'est pas moi qui l'ai créé, ce monde. Nous ne sommes que les héritiers des choix des générations précédentes. La question, c'est est-ce que on entérine ce choix ou est-ce que nous-mêmes, à titre individuel, on décide de ne pas cautionner ça? C'est la seule question, en fait. Donc, c'est pas changer le monde, c'est changer soi. Et de dire « not in my name ». Tu vois, quel beau... Eh ben voilà, tu vois, quel beau slogan.
Et le nouveau monde, il ressemblerait à quoi ?
À Melati. Non, on va en parler plus tard. Ou à Winnie. Non, on va en parler plus tard. Le nouveau monde, il ressemble... Enfin, j'aimerais qu'il ressemble à... D'abord, une reconnaissance sur le fait qu'on est tous ensemble là-dedans, quoi. Donc, il y a d'abord cette reconnaissance-là, cette énorme interdépendance. Et bien là, si on ne la comprend pas avec la pandémie, je ne sais pas ce qu'il nous faut, quoi. Franchement, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Il y a cette mantra hein, de ce monde hyper libéral qui dit que le profit est plus important que la vie. Bon, bah ça aussi, c'est un truc... non, en fait, non. Et la pandémie, elle dit juste ça, hein. La vie est plus importante que le profit. Sauf qu'on en est toujours à se dire, ah ben non, mais machin. Et on parle pas de lits d'hôpitaux. Enfin, je veux dire. Donc, nos structures, je mets des guillemets partout, hein, dirigeantes, nos autorités, non, pas, ça a pas encore percuté, quoi. Non. Et donc, ils s'accrochent à ces espèces de raisonnements du monde d'avant. Et puis, bah voilà, bah on en est toujours là. Et puis, ah ben non, bah le vaccin, il marche pas.
C'est pas ça qui t'est posé,
mon gars. Donc, enfin bon, bref.
Donc, il y a une déconstruction à faire. Donc, l'interdépendance, la vie plus importante que le profit, les femmes. Et pas les femmes pour les femmes. Les femmes pour les mères, pour l'énergie. Enfin, parce que, voilà, moi, c'est une conviction profonde. Alors, je l'avais pas à 20 ans. Hein. J'en avais rien à foutre d'être une fille. C'est plutôt un problème. Tu te fais emmerder, on te regarde les seins, on te... Enfin voilà, tout ce que vous vivez là, on l'a vécu. Enfin voilà, c'est vraiment insupportable. Mais cette rage en fait que les mecs n'ont pas, je m'excuse messieurs. Enfin j'adorerais que vous l'ayez. Hein. On en crève que vous l'ayez pas. Mais de préserver la vie en fait et de s'incliner devant elle. Il y a quelque chose de plus fort que nous. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose de plus majestueux que nous. Le parce que tu le vois bien, mais aux chiottes, quoi. Pardon, mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Non. Le enjoy, ben oui, mais pas que. Et puis enjoy différemment, quoi. Arrête de pomper, d'aspirer, de penser qu'il y a ta gueule. Enfin, je m'énerve, là, tu vois, mais c'est vraiment ces trucs. Et que je trouve qu'une mère, elle réagit pas comme ça. Il y a quelque chose d'éminemment subversif à être parent. Et à être mère. Parce que tout à coup, la vie, elle te traverse, en fait. Elle se sert de toi. Tu deviens un habitat. Et en fait, on est des habitats de plein de choses. On est les habitats de nos enfants. On est les habitats des idées qu'on déploie. On est les habitats de nos émotions. On est les habitats de nos croyances. Et t'as quand même un peu la main sur cet habitat, quoi. Donc, qu'est-ce que tu mets dedans? Et qu'est-ce que tu véhicules? Et qu'est-ce que tu transmets?
Tu es aussi la maman d'un joli projet qui t'aide à répondre aux failles de cette société, qui s'appelle Big Mother Production, que tu présentes comme un outil pour créer et produire du contenu à impact sociétal fort. Et c'est pour toi une tentative d'élaborer un nouveau récit de l'avenir, une tentative de résistance contre ce Big Brother qui déjà nous détermine et façonne nos enfants à sa main. C'est la volonté de rappeler que la part d'enfance justement en nous est un trésor, car c'est le foyer de l'appétit pour la vie et du bon sens attaqué chaque jour, de la créativité et de la joie. J'adore. Wow. Big Brother, est-ce qu'on y est aujourd'hui?
Ah ben, complètement. Puis alors avec... On est vraiment là, quoi. Soit tu... Et je fais une petite digression à ce sujet. Lisez le livre de Damasio, Les Furtifs, quoi.
Ok, je vais le noter dans les notes. J'adore les recos de livres.
Ah, mais alors, vraiment. Puis alors, puis lui, il est juste énorme, quoi. Donc oui, bien sûr, on y est. Bah, j'ai eu la chance d'interviewer Snowden il y a 3 ans maintenant.
Tu en as même fait un documentaire sur Arte.
Voilà. Et ça, c'était une rencontre, comme toi. Enfin, tu vois bien ce qui se passe, quoi.
Oui, c'est
juste énorme. Et c'est lui qui nous a réveillés là-dessus. Mais là aussi, la pandémie n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était là. Tous les outils étaient là. Et puis maintenant, avant, il y a le terrorisme, pour nous faire avaler toutes les mesures liberticides. Bon, maintenant, il y a la pandémie. C'est toujours la même histoire. Tiens, d'ailleurs, je voudrais rajouter un truc sur le monde d'avant, le monde d'après. Et la question qui gouverne.
Oui.
Et ben le monde d'avant, il était gouverné par la peur.
Oui.
Peur de ne pas en être, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur de son voisin, peur de ne pas avoir assez, la peur. Oui. La peur, tu vois, est donc transformée et solutionnée par une réponse matérielle. Et ben je pense que le monde d'après, enfin s'il est bâti sur la peur, ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Et moi, mon pari, c'est qu'il peut être basé sur la joie. Mais c'est un gros pari.
J'y crois aussi. C'est un gros pari, mais oui.
Mais c'est à nouveau, je crois que c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui.
Oui.
Parce que là, si t'as peur, tu survis pas. Tu vis à moitié, à demi, à quart. Et puis, on est tous en train de s'éteindre, là.
À petit feu.
Ouais.
Ton travail traite beaucoup de l'évolution de la démocratie. Et donc, on vient d'en parler, mais tu as notamment réalisé 2 documentaires pour Canal+ et Arte sur les combats de Laurence Lessig et de Edward Snowden, donc un lanceur d'alerte, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à cette question de l'évolution de la démocratie sont souvent liées les questions relatives au numérique. Qu'est-ce que tu penses de la transition numérique de nos sociétés?
Moi, j'ai eu la chance d'assister à la première vague Internet.
Ouais.
Donc, je sais très bien d'où c'est parti. C'est parti d'un idéal de fric. On voulait faire du fric. Ça n'a jamais été un idéal de... Alors, si, ça l'a été pour certains, et j'en ai dédié d'ailleurs un livre à Ron Swartz, mais... Enfin, moi, j'ai vu naître Jeff Bezos, quoi. Et ces gens-là pensaient écrire un nouveau monde,
quelque part, c'est vrai. Ils l'ont fait, mais il n'y avait qu'un idéal derrière, c'était un idéal capitaliste. Au nom de nos conforts, au nom de notre de soi-disant progrès, etc. Et cette transition numérique, elle n'est que ça. C'est un avatar du capitalisme, c'est son nouvel outil. Il n'a aucun autre but que de prolonger, faciliter des élans consommatoires, soit parce que elle t'assaille de messages, donc c'est la pub, soit parce qu'aujourd'hui elle pénètre ton cerveau et elle te dit quoi faire, comment agir, quoi penser, quoi acheter. Soit parce qu'elle facilite tes transactions, et on le voit bien avec la pandémie, les villes ne sont, aujourd'hui ne sont, il y a les seules personnes dans la rue, c'est les livreurs. Mais voilà. Et donc, c'est une énorme, on s'est complètement planté, quoi. C'est la pieuvre, voilà, sur nos cerveaux maintenant, et une drogue, en fait. C'est vraiment, enfin, d'ailleurs, c'est prouvé, hein. Les sursauts de dopamine quand vous cliquez sur quelque chose. Enfin, voilà, tout ça, c'est tout à fait analysé. On le sait.
C'est bien calculé.
Ouais.
D'avance.
Absolument.
Dans ton livre Une fille dans la ville, tu parles des sentiments amoureux à l'heure de la mondialisation. Et justement, des réseaux sociaux et des Instagram. C'est quoi avoir des sentiments amoureux aujourd'hui, quand on a 20 ans?
D'abord, l'amour, ça n'a jamais été facile. Soyons très francs. C'est toujours casse-gueule. C'est toujours périlleux. Il y a toujours des quiproquos. Ah, mais en fait, je regarde son pote, mais c'est son pote qui me regarde. Enfin, tu vois. Ça tout, il y a toujours eu des embrouilles. Il y a toujours eu des ratés. Ça reste, l'idée de profondément essayer de se lier à quelqu'un. De le connaître, de le rencontrer, de le toucher. Enfin, tout ça, ça a toujours été flippant, quoi. Vous n'avez rien inventé, quoi. Enfin, pardon. J'espère que l'Internet ne rajoute pas trop de tristesse à ça. Il paraît que ça facilite plutôt les choses. J'en sais rien, j'ai pas 20 ans, j'utilise pas les outils que vous utilisez, qui ne sont pas dévolus qu'aux 20 ans d'ailleurs. J'espère que vous trouvez cet espace en fait. Mais je le redis, il n'a jamais été simple. Et c'est une chasse au trésor. J'espère que vous avez l'envie et les moyens et les réflexes d'être respectueux des temps de chacun. Mettre de l'amour même dans, entre guillemets, la façon dont la rencontre se passe, en fait. Et ce qui me terrifie, c'est que j'ai parfois l'impression que on se traite comme des marchandises. Vous savez, les applis et tout le tralala, elles ont un impact même sur ma génération, sur la façon dont on se drague les uns les autres. Et c'est terrible. C'est-à-dire qu'on se rencontre et je vois bien qu'il y a des gens, ils ont une checklist. Je la vois dans leurs yeux, quoi. C'est horrible. T'as des enfants? Bon, ben, merci, au revoir. Enfin, ouais. Tu vois, et c'est juste l'idéologie de la performance qui est venue phagocyter quelque chose qui ne doit pas être marchand, qui ne doit pas être transactionnel, qui ne doit pas être calculé. La magie de l'amour, du regard qui s'attarde, de la main qui se frôle, mais j'espère que vous le vivez. Et peut-être parfois ça marche à travers une appli, et si ça facilite les choses, très bien, mais... regardez-vous avec douceur, en fait. Ne jugez pas les autres. Il n'y a pas de petites étoiles à mettre, quoi. Il y a des petites étoiles à vivre et à propager et à ressentir.
C'est beau ce que tu dis. Ton dernier documentaire, Bigger Than Us, on en parle enfin. Donc c'est Bigger Than Us, une génération prête à en découdre, le titre complet. Et il raconte le parcours de cette fameuse Melati. Et de cet autre jeune activiste décidé à changer la donne, quel espoir tu donnes à cette génération qui se réveille?
Bah, tu l'as compris, moi, là, rien que d'être là, de discuter avec toi de mon parcours, etc. La jeunesse, pour moi, c'est quelque chose, d'abord, qui n'a pas d'âge. On peut être vieux à 15 ans, hein, et j'en connais plein. Oui. Et c'est d'une tristesse absolue. Et je connais des jeunes hommes, des jeunes femmes de 50 ans. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est un état d'esprit, c'est un rapport à la vie, c'est un appétit, c'est bouffer le monde, c'est tout ça. Je me souviens bien de, et tu m'en as refait reparler, donc c'est pour ça que c'est frais, mais de cette énergie que j'avais à 20 ans, ou de ce sentiment de tout est possible, le monde est à moi. Je veux vivre quoi, agir, découvrir, explorer, m'aventurer. Enfin, la vie est une grande pente à surfer, quoi, et à grimper. Mais bon, voilà.
Oui. Oui.
Je dis pas que c'est juste. Je dis que c'est là d'où je viens et ce que je ressens profondément. Et donc, j'ai cette tendresse pour ce moment de la vie qui est assez court techniquement, dans lequel t'es sorti de l'école
et t'es pas encore rentré dans une dans le process de je fais un bébé, j'ai des enfants, où là concrètement tu vas passer 10 ans de ta vie en dehors de la société à juste faire en sorte que tout cela tienne. Mais donc t'as ce moment là où les possibles s'ouvrent, mais des possibles qui font sens en fait. Donc il y a cette énergie, il y a cette capacité d'action. Et aujourd'hui, il y a, je pense, dans cette génération, une espèce de lucidité. Si vous avez envie de savoir, vous savez, tout est possible. Enfin, tout est accessible, rien n'est caché. Après, tu peux tomber dans le conspi, tu peux, voilà. Mais je veux dire, les choses sont là. Il y a cette rage qui est liée à l'envie d'agir, de vivre, en fait. Et cette impatience. Et vous avez raison. Et puis, il y a la maîtrise des réseaux sociaux, il y a tout ce que tu veux, quoi. Qui fait que, vous créez parfois des phénomènes qu'on voit pas arriver,
oui.
Et qui est votre magie à vous, qui peut vous consumer. Hein. Notre rôle, à nous qui ne sommes plus de cette génération-là, c'est de vous dire, mais ouais, t'as raison, t'as la raison d'avoir des rêves, t'as raison d'y croire, t'as raison de vouloir péter ce monde, t'as raison. Maintenant, vas-y, fais-le de façon constructive, fais-le avec les autres, commence à côté de chez toi, commence en bas de chez toi. Mais pourquoi? Mais parce que tu vas te sentir vivant. Et je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et il va falloir être dehors. Et il va falloir se retrousser les manches.
Oui.
Et il va falloir avoir changé. Parce que si c'est pour repartir sur Enjoy, Just Do It, parce c'est que sûr. Je le vaux bien, mais alors vous aurez tout perdu. Mais tout. Il y a une fenêtre de tir, là, pour vous. Parce que de toute façon, tout ce qu'on vous a dit sur passe ce diplôme... Voilà, c'est tout est pété, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais franchement. À quoi il va servir le diplôme?
Non, mais, ok, non, mais qu'est-ce que, tu vois, tous les trucs de, que moi-même, on m'avait dit. Et déjà, sur ma génération, je trouvais ça, quand tu vois le nombre de gens qui ont changé de carrière, de vie, de trucs, de machin, bon, bah, ok, on va se calmer, hein.
Oui.
On va se calmer, sur, les carcans qu'on les met et les costumes qu'on enfile trop tôt, quoi. Il faut, ou alors t'en enfiles un, mais fais gaffe d'en avoir d'autres dessous et puis de pouvoir vite l'enlever, quoi. Tu vois, les trucs qui s'arrachent vite, quoi. Jamais il y a eu autant de possibles aussi. Parce que justement, toutes ces programmations, bah, elles ont jamais vraiment tenu, pour être franche. Mais alors là, ça se voit tellement que vous en avez presque de la chance, quoi. On est tous partie prenante. On a tous notre part de responsabilité et surtout, on a tous notre part à faire, quoi. Et ça, c'est incroyable. Dans un moment où on dit t'es rien, tu peux rien faire, ben en fait si, si. Moi je dis il y a plein de trucs, mais il faut passer la barre de cette société qui, parce qu'elle ne veut pas changer, vous muselle et va vous dire toi t'es un millénial, t'es une grosse flemmarde, t'es je sais pas quoi, enfin vous dire n'importe quoi. Pardon pour ça, mais je l'ai entendu pour moi, donc c'est pour ça que je le dis. Tu vois, c'est des trucs que j'ai entendus pour moi. Tu t'intéresses à rien ou... Tu vois, c'est tous ces stigmates qu'on vous balance.
T'es utopiste.
Voilà, sur une jeunesse, utopiste, je m'en foutiste. Enfin, tout ce qu'on peut vous... Mais d'abord, un, on l'a toujours entendu. Les vieux ont toujours dit ça aux jeunes. Quels qu'elles soient, donc on s'était tous entendus. Mais même les vieux d'avant, parce qu'ils ont été jeunes un jour.
Et donc, si aujourd'hui, tu devais déverser ton flot de conseils pour ma génération, qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
D'abord, de lire.
On a perdu ça.
Ouais. Parce que tout ce que vous traversez, franchement, d'autres l'ont traversé et c'est un soulagement. Parce que ça veut juste dire que vous n'êtes pas seul. C'est magnifique. En fait, il y a une humanité, quoi. Il y a une humanité. Donc, quelle que soit l'inédit de la situation, il y a eu des guerres, il y a eu des drames, il y a eu des attentats, il y a eu, voilà, il y a eu des horreurs déjà, c'est pas la première. Donc, et beaucoup de personnes s'en sont sorties en écrivant et en écrivant ce qu'ils ressentaient. Donc, déjà, connectez-vous aux livres. Lâchez vos écrans. Connectez-vous aux gens. Et en fait, cette histoire de connexion, c'est quelque chose de très, très important, en fait. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est interconnecté. Le changement climatique, les crises migratoires.
Bien sûr.
La liberté d'expression, la transition numérique, tout ça, c'est tout connecté. Donc, connecté à ce qui se passe, comprendre, réappropriez-vous votre pensée. Alors, toi, tu le fais en interviewant des gens, en allant à leur rencontre. C'est super. Bravo. Mille fois bravo. Il y en a pour d'autres, ça va être de peindre, de créer quelque chose, d'aller dans une assoce de quartier. Faites ce que vous pouvez, mais sortez de vos écrans, quoi. Allez à la rencontre. Allez au contact. Allez au contact. Engagez-vous pour faire n'importe quoi. Mais surtout, ne restez pas tout seul.
derrière votre écran. Il y a rien qui va se passer. Vous allez vous éteindre. Alors, tu vas me dire, oui, mais on peut pas sortir. Mais c'est pas que vrai. Il y a d'autres. Enfin, tout ce que vous pouvez faire sera autant de résistance possible à ce rouleau compresseur qui est en train de vouloir vous désactiver. Donc, ça vous appartient aussi de comprendre que vous êtes partie prenante dans une espèce de machination d'un système. Alors, pas machination, mais le d'un système.
Oui.
Qui tire profit de votre inaction.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, vous allez compenser en consommant. C'est con comme la pluie purée, mais c'est tellement simple.
C'est vrai. Hein.
En fait, c'est tellement simple. Faut arrêter les complots. C'est juste le système a envie de perdurer. Et la technologie est la dernière allumette du capitalisme. Point.
Quand on est frustré, on va faire les magasins.
Bah oui, donc on va aller regarder des chaussures pendant 3 heures sur Internet. Ou se rassurer avec telle série, etc. Donc, et parfois, il y en a des très bonnes. Hein. Oui. Mais la question, c'est le dosage, en fait. Et de ça, vous êtes libre.
On va passer à des questions un peu plus philosophiques. Quel a été ton plus beau miracle ?
Oh bah clairement, mes enfants. C'est facile.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais à ton parcours, Flore ?
J'essayerais d'être un peu moins orgueilleuse. Ça m'a fait perdre du temps. Ça m'a coupé des trucs. Après, parfois, c'était nécessaire, mais j'essayerais, et c'est pas réglé d'ailleurs, débarrasser mieux de mon ego. Des fois, il faut savoir arrondir les angles, quoi. J'aimerais bien, je pense que j'ai bien perdu 10 ans comme ça.
Autant ?
Ouais, il y a d'autres choses qui m'en ont gagné beaucoup, mais ouais, je pense que, enfin, ouais, ouais. Alors gagner sur quoi ? Mais tu sais, ces moments où tu te carapates en toi parce que t'es blessé en fait. Bah, des fois tu peux pas faire autrement, mais des fois c'est bien de bosser ses blessures pour continuer à pas répéter, tu vois, tout le temps. Savoir mieux surfer, en fait. Tu vois, en fait, c'est assez... Non, mais tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu surfes bien parce que t'es bien présent sur ta planche et que tu t'as les genoux bien fléchis, quoi. T'encaisses beaucoup mieux, t'amortis mieux ce que t'as pas vu de sous la poudre. Tu vois, une motte de terre, un truc, machin. Si t'es raide sur tes appuis, si tes genoux, ils sont verrouillés, bah, tu tombes. Puis parfois, tu te fais mal. Ben voilà, l'orgueil c'est pareil.
Flore, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager ?
Je viens de lire ce bouquin que je vous conseille. Alors ça c'est un peu maman Flore, hein, on est d'accord. Qui s'appelle le Bhagavad Gita, qui est le texte fondamental des hindouistes, qui, un peu comme notre Iliade et Homère, et enfin c'est un poème. Très long, dans lequel se posent tous les mythes de cette pratique qu'est le yoga, que je pratique aussi. Et en fait, le yoga étant un art d'agir, en fait. Et dans ce texte, qui a été réédité là, et mis en dessin, il y a cette phrase « Je m'accomplis parce que j'accomplis ». Et ben voilà, c'est ce que je vous dis, en fait. Si vous voulez vous accomplir, il faut accomplir. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Mais surtout, refusez de laisser la peur gagner, qui vous dira ne fais rien parce que le monde est hostile et dur et horrible et tout va péter et machin, etc. Ouais, mais pas que.
Et comment on sait ce qui nous accomplit ?
Bah parce que c'est le moment où tu te sens vivante.
Super.
Le seul juge de paix, c'est ça. C'est comment tu te sens, toi. Ça t'a donné du plaisir, ça t'a donné de la joie, ça t'as oublié le temps. Et c'est bon. C'est là.
Merveilleux. Merci beaucoup, Flore, pour cet échange.
Merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle Aile grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.